Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, Bernard Drainville dévoile son plan en éducation. L'ex-député Harold Lebel écope de 8 mois de prison. Une militante ayant déjà accusé les Québécois d'être islamophobes, nommée représentante de la lutte contre l'islamophobie par Justin Trudeau, et Ottawa confirme l'envoi de 4 chars Léopard à l'Ukraine pour l'instant.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors, depuis le début de son mandat, Bernard Drainville, notre nouveau ministre de l'Éducation, avait été assez discret. À chaque fois qu'il avait des questions, des journalistes répondaient qu'il voulait bien étudier ses dossiers. Et là, finalement, en marge du caucus de la CAQ qui se tient à Laval, mais aujourd'hui, il a finalement présenté quelques points de son plan en éducation, plan de match en 7 points, dont plusieurs initiatives retiennent déjà l'attention. Mario, entre autres, des assouplissements pour former des enseignants plus rapidement pour venir évidemment répondre à la pénurie de main-d'œuvre en classe et une permission aux éducateurs de services de garde de venir prêter main-forte aussi dans les classes. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première sortie de Bernard Drainville aujourd'hui?
Ça fait drôle de dire ça parce qu'on dit qu'il a été silencieux, discret jusqu'à maintenant, puis là, il fait sa première sortie, mais pour moi, c'est une continuité parce qu'il était plutôt discret, parce qu'il était prudent et aujourd'hui, il a fait une sortie prudente et mon impression... Tu sais, Bernard Drainville est rentré en politique, là, ça a fait énormément de bruit. Je pense qu'il y a assez d'expérience, là, qu'il se dit, là, je peux pas devenir le show dans le gouvernement, là, tu sais, le spectacle ambulant dans le gouvernement. Je veux pas non plus me planter, je pense qu'il veut... tu sais, il reste, puis il y a eu une expérience politique avec sa charte des valeurs. Ça a pas bien fini, là, tu sais.
Ouais.
C'est pas entièrement de sa faute. En fait, c'est pas tellement de sa faute. C'est peut-être plus Mme Marois qui a déclenché une élection. Mais ça a foiré, là. Ça a fini à rien. Donc là, on a l'impression de quelqu'un très prudent. Tu sais, comme quelqu'un qui marche, là, dans un terrain miné, là, qui met un pied devant l'autre puis qui le dépose en testant un peu ce que le sol est correct en avant. Mais c'est correct, là, tu sais. C'est une, puis on comprend qu'il se lance pas. Les gens qui demandaient la grande réforme des états généraux de l'éducation, une révision. Eux, ils vont être déçus. C'est pas ça. C'est vraiment des ajustements pointus sur des points précis, mais c'est pas la grande révolution. À mon avis, il y a des très bonnes choses. Des accompagnants dans les classes, c'est une bonne chose. La formation accélérée des enseignants, c'est certainement nécessaire.
Ouais.
Les travaux dans les écoles, remarque, ça a été annoncé 10 fois, il l'a remis, mais c'est sûr qu'il faut faire en accéléré des travaux. C'est des milliards là, qu'il faut mettre pour refaire l'ensemble du parc immobilier scolaire, les bâtiments épouvantables que sont les écoles. Donc, il a présenté un plan crédible, mais le plus important pour lui, je pense, aujourd'hui, c'est bien niaiseux à dire, mais c'est que tous les syndicats, ce monde quand même très complexe et capricieux qui est le monde de l'éducation, souvent insatisfait, souvent déprimé aussi, le pessimiste déprimé, ça va mal dans les écoles. Bon, là aujourd'hui, en tout cas, il y a un message plus positif. Il semble avoir senti au moins partiellement une écoute, puis que c'est bon, que c'est des bonnes bases de travail, puis
ouais.
On attend la suite. Donc, ouais, pour lui, non, je dirais que c'est une bonne mise au jeu, aujourd'hui, quoique... Dans ces 7 points, là, c'est pas un vrai 7, là. Dire, mettons,
ouais.
Parce que le point 6, rendre notre réseau plus performant.
Ça veut pas dire grand chose.
Non, c'est ça. Puis, t'es pas grand monde qui est contre ça, là. Ouais. On veut rendre notre réseau plus performant.
On veut rénover les écoles, on veut en construire d'autres.
Ça, c'est du concret, c'est des milliards. Puis après ça, c'est la réalisation.
C'est
rénover les écoles. Il y a un défi de réalisation des projets aussi. Parce qu'il va falloir que que les centres de services scolaires fassent sortir les appels d'offres, les travaux, la surveillance des travaux. Là, il y a quelque chose de plus compliqué à opérationnaliser.
Ouais, mais là, c'est surtout là vraiment la mesure la plus détaillée aujourd'hui. Là, comme tu dis, il y en a certaines qui sont plus floues parmi ces 7 points. Celle qu'on a le mieux détaillée, c'est vraiment la voie rapide qui va permettre aux titulaires de baccalauréat d'avoir un brevet d'enseignement. Donc, si on a un brevet de 30 crédits, alors plutôt au lieu d'avoir la maîtrise le qualifiante de 60 crédits, on coupe ça en deux. Puis ça revient à avoir 4 ans d'éducation, là, 4 ans de formation scolaire. C'est la même durée là, qu'un bac en enseignement, théoriquement. Donc, ça pourrait également inciter, là, on les oublie, mais c'est 4000 personnes qui enseignent en ce moment à cause là, de la tolérance d'engagement. Là. Ouais. On s'en souviendra des gens qui sont pas qualifiés complètement.
C'est ça, on parle de gens... Parce qu'à un moment donné, c'est aussi un talent naturel. Je pense que ça s'apprend. Mais tu sais, t'as des gens que l'enseignement, je pense qu'ils l'ont comme en eux, là, qui sont pédagogues, ils sont vulgarisateurs en eux. Donc, tu sais, quelqu'un qui a fait son bac en bio ou en maths, puis qui est un naturel de la vulgarisation qui a ça en lui, je suis convaincu qu'il est déjà un bon prof. Mais bon, tu sais, l'évaluation, les cas des enfants en difficulté, tu sais, je veux dire, apprendre à devenir un enseignant, je comprends là, que c'est plus que d'un bon vulgarisateur, pis un bon communicateur, c'est un ensemble de connaissances qu'il faut développer, qu'il faut étudier, mais qu'on le fasse, qu'on ait une version accélérée dans l'état actuel du manque de profs, là, ça, je pense que c'est bien, bien raisonnable.
Pis si tu me permets, Mario, même dans la perspective, hein, j'étais étudiant moi aussi il n'y a pas si longtemps, j'ai comme l'impression, on dirait, que d'avoir cette option-là, une fois que tu as fait ton baccalauréat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un bac parce qu'ils veulent faire un bac, parce qu'on leur dit de faire un bac, qu'ils finissent après puis qu'ils se rendent compte qu'ils savent pas trop où ils veulent aller après. D'avoir cette porte-là maintenant, de pouvoir faire un brevet en enseignement, puis de se diriger ensuite, t'as peut-être quelque chose qui va devenir une passion. T'sais, on dit souvent, tout comme pour les infirmières, enseigner, c'est une vocation. D'accord, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Mais il y a des gens, je pense, qui vont peut-être réaliser, qui vont peut-être considérer que c'est une nouvelle débouchée intéressante peut-être pour leur future carrière. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant.
On a augmenté les salaires, les premiers échelons, le salaire d'entrée. Fait que on pose un geste là qui pourrait être utile pour un peu soulager d'ici quelques années la pénurie d'enseignants.
Sinon, également aujourd'hui, encore en marge de ce caucus de la CAQ, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a réagi à un article du journal ce matin qui révélait que des employés d'organismes publics, on parle d'Hydro-Québec, Investissement Québec, entre autres, qui ont accès en ce moment à des services de télémédecine via l'entreprise privée Dialogue, donc qui peuvent consulter. Et là, on a vu évidemment là, des soupçons de ce système à deux vitesses qui pourrait exister, certaines craintes qui étaient soulevées, entre autres par les oppositions et autres, mais on a fermé la porte là, tout de suite aujourd'hui du côté de Christian Dubé. On n'entend pas du tout interdire aux employés de l'État d'avoir recours à la télémédecine pour éviter justement l'attente en clinique. Comme l'expliquait M. Dubé, il y a bien des gens qui n'ont pas un bon accès au système de santé en ce moment. On tente de régler ça. Pourquoi enlever cet accès-là à certaines personnes si on peut les aider? En plus, là, du côté
Mais tu sais que la vérité, c'est que il y a de plus en plus d'employeurs. C'est sûr, on n'est pas... C'est pas des gens au salaire minimum. Là. Dans les emplois plus haut de gamme, dans les entreprises où il y a beaucoup de compétition pour garder ses employés, puis des employés, là, dans certains cas, bien formés, bien rémunérés, c'est devenu un... Parce que là, on cherche le petit plus. T'as déjà une assurance santé. Là. Ces entreprises-là ont déjà un programme d'assurance collective. Puis là, un petit plus, c'est l'abonnement à la télémédecine, l'accès à la télémédecine. Et pour l'entreprise, il y a comme, on fait d'une pierre quasiment 3 coups, là, souvent. D'abord, l'employé va aimer ça, donc c'est de la rétention. L'employé va dire, à mon entreprise, non seulement on a une assurance santé, mais en plus, on est abonné à Dialogue, ou à un autre, à de la télémédecine. Deux, l'employé qui va passer une demi-journée, ou une journée et demie à l'urgence, ou à la clinique, ou d'essayer d'avoir... Cet employé-là, il est pas au bureau. Là. S'il est capable d'avoir accès par la télémédecine à une solution ou à un médecin ou quelque chose de rapide, puis qu'il le fait en quelques minutes ou en une heure, je veux dire, il est au bureau, à moins qu'il y ait une situation de santé très, très grave. Mais sinon, il est au bureau, donc tu le perds. Le système de santé peut faire perdre des heures, des demi-journées de travail nombreuses à des employés. Et trois, il y a aussi des services. La télémédecine touche de plus en plus même à la santé mentale.
Ouais.
Fait que tu veux garder tes employés heureux. Donc, c'est une longue histoire pour dire que c'est de plus en plus utilisé. Donc, le gouvernement est un employeur. Ce que j'ai décrit, là, des employeurs qui veulent garder leur monde. Mettons, Hydro-Québec, c'est un gros employeur qui a besoin de plein de ressources spécialisées, ingénieurs, administrateurs. Même chose, Investissement Québec. dont eux, Investissement Québec, compétitionne avec qui? Avec des banques, avec les firmes qui sont dans le domaine du placement, de la finance, etc., tu sais, pour recruter du monde. Alors, probablement que les entreprises concurrentes, là, celles qui pourraient leur voler leurs employés ou celles à qui ils vont voler des employés, c'est un peu de même, ça marche, ben, ils ont ce genre de service-là. Fait que si tu veux compétitionner, mais je comprends le malaise. Tu dis, ah, ben là, l'État qui encourage une médecine privée, puis c'est comme en même temps la honte, là. C'est l'État qui reconnaît que ces services sont plus accessibles. C'est un peu ça.
Ouais.
C'est quelque part, c'est des branches de l'État qui reconnaissent, ah, ben là, la santé publique, oublie ça, là, on n'aura jamais de service, là. On va rien qu'attendre, puis... Mais,
ouais.
Pas quoi dire. Quand ça marche pas, là, quand ça marche pas, les gens cherchent des portes d'entrée, ils cherchent des solutions. Fait que tu vas en avoir tout le temps de ça. Maintenant, l'alternative, il y a deux alternatives. Soit on abandonne la télémédecine, on dit au Québec on veut pas ça. Mais là, c'est une nouvelle technologie, c'est un ensemble de nouvelles technologies qui rendent accessibles des soins de santé plus rapidement. Et je pense pas qu'on va arrêter ça. Est-ce qu'on veut nationaliser la télémédecine, dire la télémédecine devrait, c'est le gouvernement, l'État qui devrait gérer toute la télémédecine? Ben là, si on veut que ça marche pas, on n'a rien qu'à faire ça.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Alors qu'il avait déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle, Harold Lebel, l'ex-député du Parti québécois, a connu sa sentence aujourd'hui. Peine de 8 mois de prison pour cette agression sexuelle survenue en 2017. On l'avait déjà reconnu coupable, comme je l'ai dit, en novembre dernier. Mais là, donc, c'est sa peine de détention à laquelle va s'accumuler aussi une inscription au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Va être sous le coup d'une probation 2 ans aussi. Interdiction d'entrer en contact avec la victime. Et le juge est aujourd'hui, juge Francoeur, dans sa lecture du jugement, qui a été pas très tendre envers Harold Lebel, a souligné le courage de la jeune victime, sa grande force mentale également. Elle qui a été, dans ses propres mots, trahie par un ami, un mentor en qui elle avait confiance. Harold Lebel également, lui qui s'adressait au juge Francoeur en parlant de conséquences terribles sur sa vie, mais des conséquences qu'il va lui falloir assumer et surmonter. Donc c'est un dénouement finalement pour ce procès, soulagement pour la victime également dans une lettre qu'elle a transmise au juge. Mais c'est quand même quelque chose, là, ce procès autour d'Harold Lebel, l'histoire a... Elle a traîné pas mal, Mario, et ça se finit maintenant.
Ouais, juste l'idée qu'un élu, et c'est arrivé quelques fois dans l'histoire, là, mais juste l'idée qu'un élu, tu sais, qui était député il y a encore quelques mois à peine, prenne le chemin des cellules, c'est déjà énorme comme événement. Et là, ben, je pensais, écoute, on... Le verdict du jury était clair, là. T'sais, il a été jugé 12 personnes, ils ont tranché. Il y a encore des gens là, qui pensaient que Harold Lebel allait éviter la prison. C'est-à-dire, on entend souvent les peines dans la collectivité, quelqu'un qui a aucun antécédent judiciaire. Alors, il y a certainement un message, parce que même la défense, c'est une suggestion commune, le 8 mois. C'est-à-dire que même son avocat, voyant le verdict du jury, s'est dit, ben, il y a même pas... Il semble pas avoir demandé de la peine dans la collectivité, là, vu que même sans antécédent, la prison était inévitable. Donc, il s'est entendu avec la couronne là-dessus, probablement en regardant d'autres dossiers des précédents. Et, ça dit ce que ça dit, là. Ça dit ce que là où la société en est comme sévérité, lorsqu'il est question d'agression sexuelle.
Toujours dans les affaires judiciaires, il y a l'automobiliste qui a causé la mort d'un motocycliste en tentant de pas écraser des canards, a été reconnu coupable par un jury, Éric Rondeau, donc, qui est coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort, incident qui remontait à juillet 2019, avait tenté d'éviter là une canne et ses canetons, mais avait passé de l'autre côté de la voie, donc en sens inverse, et lorsque le motocycliste, le jeune homme de 19 ans, Félix-Antoine Gagné, est arrivé en moto, n'a eu aucune chance, est foncé, là, entré en collision avec le véhicule et finalement décédé de ses blessures. Et donc, on a jugé là, la version de la couronne plus crédible dans cette histoire, alors qu'on a compris que au lieu de rester dans sa voie comme il aurait été plus prudent, c'est ce qu'expliquait l'avocat de la couronne, il a décidé de dépasser l'accusé dans ce cas-ci qui voulait dire que derrière lui, il avait probablement un plus grand danger, alors que c'est devant lui, plutôt qu'estimait le jury, qu'il aurait dû regarder. Donc, un cas qui a certainement fait beaucoup jaser, Mario, qui divisait énormément, mais au sein du jury, on s'est entendu.
Ouais, parce que ça divisait incroyablement la société, là. Pas que ça divisait la notion d'imprudence. Je pense que c'est plus la notion de criminel. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un geste criminel? Puis je pense bien des gens là-dedans se mettaient un peu dans la position de dire, est-ce que moi j'aurais écrasé les canards? Mais bon, le juge avait l'option de s'arrêter aussi, de s'arrêter complètement. Le jury semble pas avoir retenu la thèse de la peur de se faire frapper par derrière. Donc c'est une erreur de jugement d'être allé sur la voie du motocycliste. Quand le jury devient unanime, on est obligé de se rallier. Moi, j'avoue que je me suis posé la question tout le long. Je regardais ça, puis je me disais, si j'étais dans le jury, j'aurais de la misère à regarder ce gars-là puis dire, ouais, il a posé un geste criminel. Mais en même temps, j'ai suivi ça de loin. J'ai suivi ça comme ça dans l'actualité. J'ai pas eu tous les témoignages des experts, les reconstitutions de scène avec les vitesses. Il manque des éléments que les jurys ont eu au complet. Eux ont eu tout le contenu. Et ils sont 12 hommes, femmes qui arrivent de toutes sortes de secteurs de la société, de toutes sortes d'âges. Je suis convaincu qu'il y en avait au départ qui devaient dire, ah ben là, c'est le pauvre type, il a juste voulu éviter des canards. Mais à la fin, les 12 se sont mis d'accord. Fait qu'on est bien obligé de dire c'est ça le verdict, c'est ça la décision d'un jury avec tout l'éclairage du procès, toute la preuve, c'est ça la décision d'un jury.
Tout savoir en 24 minutes.
Une journaliste et militante des droits de la personne du nom d'Amira El-Gawabi a été nommée aujourd'hui comme représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. Tout ça est bien beau, mais petite controverse dans le dossier. Mais elle a déjà accusé les Québécois d'être influencés par un sentiment anti-musulman. Et donc, elle qui va agir maintenant comme porte-parole, conseillère et même experte, dit-on, là, dans les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre à la fois l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale, l'intolérance religieuse. Mais c'est des propos assez durs envers les Québécois qu'elle avait tenus en juillet 2019. On suivait, évidemment, la loi 21 qui venait d'être adoptée au Québec par le gouvernement de François Legault. Et elle disait des Québécois dans une chronique du Ottawa Citizen, et je cite, « Malheureusement, la majorité des Québécois semblent influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. » Mario, ça risque de faire réagir quand même, ça.
Ben c'est gros, mais en fait, c'est le Canada. Justin Trudeau, pour sa nomination, nous rappelle qu'il connaît bien le Canada. C'est le Canada. Il n'est pas permis au Canada de dire quoi que ce soit contre aucune communauté, jamais, sauf une, les Québécois. C'est le seul groupe dont il est permis, je veux dire, tu parles contre les Québécois, il t'arrivera rien si t'animes un débat des chefs, il t'arrivera rien pour une nomination à un poste de comme ça, un poste prestigieux, un poste de haut fonctionnaire ou de fonctionnaire. C'est le seul groupe que tu peux parler contre les Québécois francophones. Ça, c'est permis, tu peux les accuser d'être racistes, tu peux les accuser de tous les maux de la terre. Sinon, il faut pas parler contre personne, il faut les minorités religieuses, évidemment. Mais imagine, on pourrait dire si elle avait dit ça ou si elle avait tenu des propos d'abord de l'ensemble du Canada ou du Canada anglais, ça aurait jamais passé, aurait jamais pu avoir une nomination comme celle-là.
Ouais.
Mais c'est ça la réalité des Québécois dans le Canada, c'est qu'on est le groupe dont il est sur lesquels il est permis de s'essuyer les pieds. Puis ça, c'est sans conséquence, à la limite, ça peut même faire avancer ta carrière.
À Montréal, Mario, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais des fois, c'est difficile de stationner. Hein? Tu regardes le poteau, il y a une affiche, deux affiches, 10 affiches qui pointent dans toutes les directions. Interdit de se stationner entre telle heure et telle heure. Interdit de se stationner entre telle date et telle date. Oui, interdit de se stationner les années bissextiles. Non, je blague sur cette dernière, mais on s'entend que c'est extrêmement compliqué. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la ville de Montréal, elle non plus ne sait pas vraiment comment ça fonctionne ni quels panneaux sont installés dans la ville au grand complet. Et c'est donc une mission, un appel d'offres qu'elle lance cette semaine pour qu'une entreprise prenne le chemin des 4500 kilomètres de rues, de routes de la métropole pour aller recenser, Mario, tous les panneaux de stationnement qu'on estime un nombre d'au-dessus de 100 000 dans la ville, parce que c'est vraiment ce qu'on apprend du côté de l'Agence de mobilité durable. Il n'y a pas de banque de données des panneaux de stationnement à Montréal. Il n'y en a aucune. On le sait pas. On ne sait pas. C'est le néant complet. Et donc, on veut monter cette base de données au complet et rapporter, dit-on, les incohérences entre les affiches de stationnement qu'on pourrait trouver. On dirait, ça m'étonne pas en même temps qu'on soit pas au courant
du tout. C'est un bel aveu, là. C'est un bel aveu. C'est une belle humilité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Mais la première chose, c'est qu'il faudrait simplifier ça, là. Je veux dire, avant même de dire, oui, peut-être qu'ils vont constater des affaires, mais la première chose, ce serait de simplifier ça, de dire, on peut-tu rendre ça un peu plus simple pour l'usager, mettre les règles un peu plus conviviales, tu sais. Mais bon, c'est le résultat. Tu te rends compte que les politiques de stationnement, c'est le résultat de d'élus municipaux qui ont écouté tous les chiolages. Puis là, nous autres, à telle heure, on voudrait pas que personne soit stationné. Fait que là, on met une interdiction entre 17h et 18h. Tu sais, est-ce qu'il y a des interdictions, des petits bouts de la journée où tu peux pas? Mais c'est l'addition là, de toutes sortes de plaintes, de chiolages, de commerce, de toutes sortes de monde. Puis là, à chaque fois, on a mis des nouvelles règles, toujours un peu plus pointues. J'ai très, 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 très peu de foi dans ça, mais déjà, si on l'indiquait mieux, parce que, tu sais, ouais, les interdictions, parce qu'en plus d'être compliqué, t'as les petites flèches, là, tu sais, que c'est à partir d'ici que tu peux plus, mais là, la flèche, comme on dit, la flèche, ils ont soufflé de la neige dessus, fait que là, elle est plus vraiment, tu sais, l'angle est plus vraiment au 45, fait que est-ce que c'est avant la flèche que je peux pas, ou c'est après la flèche que je peux pas? Je pense qu'il y aurait moyen de mieux indiquer dans beaucoup de villes. Il n'y a pas une ville qui est aussi pas claire qu'à Montréal. Ah. Partout ailleurs, c'est plus clair. Donc, il y aurait des apprentissages à faire.
Et Mario, j'en ai fait les frais. Hein. Je t'ai simplement te raconter que je suis très au courant que la ville ne sait pas où on peut pas se stationner. Parce qu'une fois, on a remorqué mon véhicule pour un déneigement alors qu'il n'y avait pas vraiment de neige. À la limite, c'est pas grave. On a remorqué mon auto dans une zone de stationnement interdit, où elle est restée 2 jours puisque j'étais pas là pendant la fin de semaine, et donc j'ai accumulé à peu près 500$ d'amende. C'est bien le fun, tout ça.
OK, parce qu'ils t'ont mis des contraventions à l'endroit où tu avais remorqué.
Oui.
Donc, la remorqueuse a déposé ton véhicule dans un endroit interdit.
Et là, ils m'ont donné un premier ticket. Puis le lendemain, se sont pas dit, il est peut-être pas là pour la fin de semaine. Non. Ah, il y avait déjà 2 tickets dessus. On va en remettre un 3e pour une bonne mesure. Alors, ils ont mis ça là-dessus. Puis comme c'est le véhicule, j'en suis pas le propriétaire. Hein, c'est dans la famille de ma copine qui en est propriétaire. Ben moi, je peux pas me rendre pour aller contester l'étiquette. Alors, ça va rester lettre morte. Je les ai payés et j'étais bien content, tu peux le deviner.
Bienvenue à Montréal.
Économie.
On savait déjà qu'Home Depot avait, badiné avec les données personnelles de certains usagers, certains clients, pour les fournir à Facebook. Mais un rapport rendu public aujourd'hui par le commissaire à la vie privée, Philippe Dufresne, qui a dénoncé cette pratique. Et on comprend un peu mieux les rouages de cette mécanique. Donc, on fournissait les adresses de courriel de la clientèle d'Home Depot qui étaient recueillies par l'entremise des reçus électroniques. Et on utilisait la fonction conversion hors ligne de Meta pour communiquer les renseignements. Ce qu'on dit, c'est que c'était chiffré, ces adresses électroniques-là, mais du côté de Meta, c'est extrêmement facile, après ça, de retrouver le compte Facebook qui est associé et lié à une personne, et on pouvait donc donner des renseignements sur les achats qui étaient effectués. On sait que ça durait depuis au moins 2018 jusqu'à maintenant. On connaît pas également le nombre de clients qui ont été touchés, mais c'est vraisemblablement un nombre qui est très important, selon le commissaire.
Et là, sans leur consentement.
Ouais, mais là, ce que Home Depot, et c'est la défense d'Home Depot, on dirait, pour moi, qui m'a sorti de mes gonds aujourd'hui, ils disent qu'il y avait le consentement tacite des clients parce que ceux-ci pouvaient demander de lire la déclaration de confidentialité complète. Donc, tu sais, les petits caractères pouvaient le lire sur le web ou le demander en succursale, Mario. Imagine, t'as 10 personnes derrière toi. Là.
Quand l'employé te demande, en tout cas, votre courriel, là tu lui demanderais, moi, je voudrais lire la déclaration, là, qu'est-ce que vous allez faire avec mon courriel. Puis là, je me rendrais compte qu'en donnant mon courriel, j'approuve qu'ils pourraient le donner, eux, à quelqu'un d'autre.
C'est exactement ça, la défense de Home Depot qui n'a pas été retenu, Mario, aujourd'hui.
C'est intéressant. Combien de gens ont dit, avant de donner leur courriel, ont demandé à lire une déclaration de 2 pages en petits caractères, là?
C'est une très bonne question, ça.
Comment c'est zéro? La fois, c'est zéro.
Le Monde.
Ouais, d'après moi aussi, il n'y a pas grand monde qui ont donné le consentement explicite. Mario, on l'attendait, là, la défense aujourd'hui du Canada, de par sa ministre Anita Anand, de confirmer l'envoi de 4 chars d'assaut Léopard 2 à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Nombre qui pourrait augmenter, dit-on, en fonction de l'évolution de la guerre, puisqu'on a 82 de ces chars dans l'arsenal de l'armée canadienne qui vont venir s'ajouter, évidemment, à tous les autres chars qui sont envoyés. Là, un plan de plus de 100 chars, 31 M1 Abrams qui ont été achetés par les États-Unis, 62 Léopard 2 qui proviennent d'un peu plus partout en Union européenne. Ça va s'ajouter évidemment aux 200 véhicules légers que le Canada veut envoyer, le système de défense aérien qui a été acheté à grands frais aux États-Unis également. Il y avait le chef d'état-major du Canada, le plus haut gradé, le Wayne Ears, qui était là également avec Mme Anand et qui a eu des mots là quand même assez durs envers la Russie. Il a dit que le pays allait utiliser n'importe quelle excuse pour se lancer dans une nouvelle attaque, là, parlant de la Russie. Il a dit, s'ils veulent une désescalade, ils peuvent quitter l'Ukraine. Donc, des mots forts. On n'est pas habitué de les entendre de la part de la défense du Canada. Mais disons que ça vient mettre les points sur les i aujourd'hui, Marie.
Le Canada qui fait sa part, mais c'est ça. C'est sa part. C'est la
quatre
part
chars.
Du Canada. C'est ça. Quatre chars d'assaut. Je comprends, là. L'armée canadienne, là, qui je pense pas qu'il manque de solidarité envers l'Ukraine, mais qu'on sent depuis, ça a été la même chose quand ils ont donné le système de défense anti-aérien. L'armée canadienne qui dit, ouais, mais là, vous donnez des choses qu'on a même pas, ou qu'on a si peu, ou qu'on a, dans le cas de le système de défense anti-aérienne, ça fait 10 ans que l'armée canadienne dit, ça nous prendrait ça. Là, on en achète un aux États-Unis, mais pour le donner à l'Ukraine. Là, des chars d'assaut, on semble en avoir assez peu pour les entraînements et tout ça. Je pense qu'une partie de ce qu'on a est plus fonctionnelle. En tout cas, aurait pas en état de marche immédiat.
Ouais.
Puis là, l'armée canadienne dit, ouais, mais là, vous nous déséquipez, on va-tu en racheter d'autres?
Mais Mario, on verra le budget qui restera après les dépassements de coûts inévitables des F-35.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.